Et nous allons maintenant parler, bien sûr, de quelque chose qui est très important, c'est l'international. On vous applaudit encore. Je propose tout de suite à Sylvie Lemay de me rejoindre, ainsi que Sarah, je crois qu'elle est assise par là, Gilles, que j'ai entrevu aussi, Gilles Vermeaux-Desroches, si vous voulez bien me rejoindre. Voilà. Alors, vous avez des micros, on est dans la convivialité, on s'installe tranquillement et je vais tranquillement vous donner la parole. Alors, Sarah, c'est indiqué, tu es aujourd'hui donc directrice de l'impact et des affaires publiques chez Murphy. Tu étais salariée du comité 21, donc forcément, pour cet anniversaire ce soir, tu as plein de choses à nous raconter et nous t'écoutons.
Oui, je suis très, très contente d'être là. Je suis aussi très émue. Merci beaucoup de donner la parole aussi aux anciens salariés du comité 21. J'ai passé 7 ans au comité 21, je crois, je ne suis pas certaine, mais Bettina me corrigera, que j'ai été la première salariée dédiée aux dossiers internationaux. Et même si le comité 21 en faisait avant, mais il n'y avait pas de TP, comme on dit, 100% dédié à l'international. Et on l'a dit déjà, d'autres intervenants l'ont dit avant moi, l'international est constitutif du comité 21, puisque c'est l'idée de créer cette plateforme multi-acteurs est née du premier sommet de la Terre, Rio 92. Ensuite, il attend 3 ans pour avoir son acte de naissance en 95. Et je ne vais pas vous faire l'histoire de la présence du comité 21 à toutes les COP, mais je crois que le comité 21 était déjà présent à la COP 1, présidée par Angela Merkel à Berlin. Si je dois retenir quelques dates marquantes internationales pour le comité 21, je prendrai la période 2011-2012, et là je me tourne vers Antoine. C'est là où j'ai rencontré l'équipe salariée du comité 21 qui préparait un truc complètement dingue, Rio plus 20, emmener une délégation de 50 organisations, d'organisations d'entreprises, de collectivités, d'ONG, des fois adhérentes du comité 21, des fois non adhérentes, pour montrer à la société civile que les sommets mondiaux sur le développement durable, ce n'est pas qu'une conversation entre États. Je retiendrai aussi la préparation de la COP 21, l'envie de continuer en fait, de préparer cette société civile aux débats internationaux, solution COP 21, on l'a dit, et ensuite de tirer le fil pour continuer à présenter en fait, les solutions de climat des collectivités, des entreprises. Voilà. Peut-être un tout dernier mot pour vous dire que l'agenda 2030, c'est les ODD. Les ODD, ça naît après la période des OMD. Les OMD, c'était les objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est quand le milieu de la coopération internationale finalement rencontre le milieu du développement durable. Et en me replongeant dans tout ça pour préparer ce propos-là ce soir, j'étais assez émue de me rendre compte que c'est un peu le chemin que j'ai fait personnellement dans ma carrière, parce que je suis venue du monde de la solidarité internationale. Je vois Renan Dantec aussi qui est juste là. On était tous les deux dans la coopération décentralisée pour venir sur le développement durable. Et en regardant toute la prolifique production du comité 21 sur les ODD et sur l'agenda 2030, je vous invite à regarder le rapport sur l'appropriation des ODD, le numéro 1 en 2017, le numéro 2 en 2018, qui a tellement été reconnu, vu par le ministère des Affaires étrangères français, qu'il nous a proposé de le présenter depuis le siège France à l'ONU au Forum politique de haut niveau en 2018, ce qui reste encore aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, hein, 8 ans plus tard, le moment le plus fort de ma carrière professionnelle. Et pour tout ça, j'ai envie de dire merci au comité 21. Aujourd'hui, je suis lobbyiste et je revendique ce mot de lobbyiste. Je suis lobbyiste de la transition écologique et j'ai fait mes classes, j'ai fait ma culture G au comité 21 grâce à l'équipe salariée, grâce à l'implication et de l'expérience des administrateurs et des adhérents et aussi beaucoup grâce à ma rencontre avec Bettina. Donc pour tout ça, merci, j'en suis très très fière. Merci beaucoup.
Merci Sarah, merci de partager cette fierté avec nous. Gilles, le grand directeur développement durable de Schneider Electric.
1m75.
L'international, ça te parle? Tu as même été traîné à la COP 30, je crois, à Belém. Les entreprises, hein, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce couplet?
je vais appeler ChatGPT International COP30 Belém. Non, mais d'abord, je suis ravi d'être là. Le comité 21 à 30 ans, ça vaut le coup de se rappeler qu'il y a 30 ans, aucune entreprise, si vous faites un peu d'archéologie, ne parlait de ce sujet. Aucune. La plupart sont rentrées. Aucune. Je vois des têtes dubitatives. Je paye un repas à celui qui me trouve un rapport annuel d'une entreprise il y a 30 ans et qui met dans des pages importantes ou même peut-être dans des pages qu'elle se mobilise sur le développement durable. Alors là, je n'ai pas de difficulté. Et donc, y a besoin de réseaux, il y a besoin de précurseurs. Pour moi, le comité 21, c'est à la fois un aiguillon sur la méthode et la chance, pas si habituelle que ça pour le monde de l'entreprise, sur des sujets comme cela, de participer et d'être challengé par des réflexions intellectuelles. Parce que quand on est dans le monde de l'entreprise, on est dans l'action, on sait à peu près ce qu'on doit faire dans les années qui viennent, et il y a plein d'actions pour lesquelles on n'a pas forcément besoin d'une réflexion nouvelle, d'un rapport nouveau, oui, et qu'on sait avancer comme ça. Le comité 21 nous met en face d'un savoir partagé, pour avancer sur le sujet. On est à un moment où on dit beaucoup de mal de cette dernière COP et du fait qu'elle n'a pas avancé. Les COP, c'est une superbe réalité. On est compte 50 000 personnes. Moi, à chaque fois que j'y vais, je crois que c'est ma beaucoup moins que Bettina, mais ma beaucoup. Peut-être une, ma 15e. Je rencontre à des COP des gens avec qui je converse à distance, mais c'est l'endroit où on se renforce, on discute, on a des sujets nouveaux. C'est quand même dingue que les organisateurs des COP en fassent encore un pays avec un lieu, avec une frontière, où les acteurs étatiques se rencontrent entre eux et méprisent les autres. Alors, il y a quelques-uns d'entre eux qui ne les maîtrisent pas, comme Sylvie, pour lequel j'ai la plus grande estime. Tout le monde le sait. Mais enfin, en tous les cas, techniquement, dans une COP, il y a 15 jours de présence. On ne peut pas complètement dire que tous les acteurs qui viennent du monde associatif, de l'entreprise, etc., contribuent à cette COP à quelque chose, si ce n'est de dire que la société civile est intéressée et qu'il faut continuer. Et puis, les acteurs des États se rencontrent entre eux et travaillent entre eux. Ils font des choses tellement sérieuses que ce n'est pas la peine que les autres y participent. Premier point. Mais deuxième point, je trouve que cette dernière COP donne raison à beaucoup de thèses du comité 21 et nous font avancer. On ne sait plus rien dire sur la limitation de l'oil and gas. On n'a même pas osé dire que celle d'il y a 2 ans, on allait revenir sur la phrase, donc on a dit qu'on allait la garder. Par contre, si vous faites une recherche avec l'intelligence artificielle sur les sujets de la COP, je crois qu'il n'y a pas un pavillon, il n'y a pas une journée un peu partout où il était question de l'électrification. Antonio Guterres a commencé par l'électrification. Et le deuxième sujet qui était très clé, c'est la place des territoires, qui ont joué un rôle qu'ils n'ont jamais joué avant, les maires, les territoires. Et d'ailleurs, les bons acteurs dans nos pays, là où l'État est en rien exemplaire, il adore être régulateur, mais il n'est pas beaucoup exemplaire. Et ce qui est vrai en France est vrai aussi ailleurs. Le tiers des bâtiments tertiaires français est public, et c'est probablement le tiers qui consomme le plus d'énergie au mètre carré. Mais il aime bien donner des réglementations pour que le privé fasse mieux. Très bien. Eh bien, je trouve que la COP, cette fois-ci, y compris dans l'incapacité d'aller plus loin dans les grandes théories entre pays qui est pourtant nécessaire, a montré que les solutions étaient un peu essentielles pour bouger et a mis en valeur pas mal dans les discours, y compris, je vous l'ai dit, d'Antonio Guterres. Bon, la scène de l'électrification, j'y suis associé, mais il y en a beaucoup d'autres. Et celle des territoires qui ont montré que, lorsqu'il y avait une volonté politique locale, il se passait quelque chose. Le comité 21, quand il parle d'adaptation, quand il met les acteurs ensemble, les uns avec les autres, est indispensable. Il l'a été, il le sera, et je trouve que c'est bien que les entreprises s'y associent.
Merci. Merci de ton franc-parler, merci de tes convictions. Alors Sylvie, vous avez été architecte, je crois, du grand plan de l'action au moment de la COP 21, ambassadrice de la biodiversité. Tiens, en parlant de biodiversité un peu ensemble ce soir, parlons un peu de PNU puisque nous sommes sur l'international. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors d'abord, merci de l'invitation et vraiment ravie d'être là. Bon anniversaire à ce comité 21 qui n'était pas forcément quelque chose de si connu finalement en dehors de la France. Et donc, moi, quand j'ai commencé en tant que directrice du programme des Nations Unies pour l'environnement sur la partie industrie et économie, une des choses qui m'a beaucoup occupée, c'était d'essayer de monter des coalitions d'acteurs, de différents types d'acteurs, par sujet, pour essayer, et surtout de prendre ceux qui étaient les pionniers, on va dire, et pour essayer d'avancer et de montrer au fond quelle était la voie, parce que j'ai toujours été convaincue que, et je ne suis pas tout à fait toute seule, mais je suis assez d'accord avec toi, Gilles, qu'il faudrait avoir 8 jours de dialogue avec la société civile au COP. Je te propose qu'on y passe les 10 années qui viennent pour essayer d'y arriver. Mais j'ai toujours été convaincue que, en réalité, les gouvernements ne s'engagent que lorsqu'ils sentent que et la société civile et le monde économique est relativement prêt, et réciproquement, le monde économique a intérêt à faire en sorte que le gouvernement accompagne par des régulations des choses qui sont déjà en train de mettre en place. Et c'est vraiment une synergie win-win, comme on dit. En tout cas, c'était quelque chose que j'essayais de faire au PNUE. Et évidemment, en faisant ça, j'ai rencontré le comité 21. J'ai évidemment rencontré Bettina, mais aussi d'autres. Et j'ai vu à quel point la façon dont c'était mis en place en France pouvait servir de modèle et d'exemple, honnêtement. Et ça a été quelque chose que j'ai essayé de promouvoir dans d'autres pays, ou en tout cas d'y faire certainement référence. Ensuite, le deuxième point que je voulais mentionner, effectivement, sur la biodiversité. Alors, on parle beaucoup climat, y compris au comité 21. J'ai entendu tout à l'heure, et je ne l'avais pas vu, qu'il y avait eu une publication sur la biodiversité. Mais en tout cas, je voudrais saluer les nombreux travaux du comité 21 sur les solutions fondées sur la nature, qui était un sujet, Dieu sait, qu'il a été très compliqué, y compris dans les négociations avec certains pays qui sont quand même encore très frileux par rapport à cette notion-là et qui préféreraient avoir des bonnes digues contre les inondations plutôt que des solutions plus douces, comme on pourrait les appeler. Et bravo, évidemment, sur tous les sujets d'adaptation d'eau, etc. Je pense que le sujet de la biodiversité en tant que tel serait peut-être effectivement un peu la... Enfin, c'est peut-être le point à regarder désormais. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, comme les anniversaires, c'est souvent le moment où les fées se penchent, non pas sur le berceau, mais en tout cas sur le gâteau, d'ailleurs, que je n'ai pas vu.
On n'est pas encore au
cocktail. Et soufflent et émettent des vœux. Eh bien, j'aurais peut-être 2 vœux ou 2 suggestions pour les années qui viennent. La première serait effectivement de se plonger sur les sujets concrets au niveau territorial de l'intégration de la biodiversité et du monde économique. Et il me semble qu'un des sujets intéressants serait les parcs régionaux en France, qui sont des objets regardés avec assez d'attention et de curiosité par d'autres pays, qu'on a présentés comme étant des lieux relativement exemplaires, ou en tout cas dans lesquels on pouvait essayer de faire les deux. Je pense qu'il y a des choses à tirer de ces expériences-là, y compris peut-être pour en faire quelque chose d'encore un petit peu plus capable de préserver la biodiversité, et en tout cas, là où ça marche, certainement de montrer quelles ont été les bonnes recettes pour concilier les deux. Ça, c'est mon premier vœu. Et puis le deuxième serait de dire, n'oublions pas les acteurs financiers. Je sais que lorsque ce soit à la COP ou au PNUE, c'est toujours ceux qu'on oublie. Et or, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu les acteurs incontournables, et si on n'arrive pas à faire financer les actions qu'on a décidé de mettre en œuvre, eh bien ça ne marchera pas. Donc dès le départ, les intégrer dans ces dialogues, y compris territoriaux. Il y a un certain nombre de grandes banques en France qui sont intéressées, je ne parle pas juste du groupe Caisse des dépôts, mais aussi des banques privées, qui avancent sur ces sujets-là. Je trouve que ça serait intéressant de voir comment ils pourraient contribuer. Voilà, bon anniversaire. Et effectivement, moi aussi, j'aimerais être là dans 10 ans pour voir comment tout ça aura été mis en place.
Et pourquoi pas. Merci beaucoup. Donc, dans la dynamique de nos séquences, cette fois, nous allons être sur la dernière séquence avant la grande table ronde de tout à l'heure. Sobriété, grande transformation, nouveaux modèles qui